a message from the gouvernement du Québec.
Good evening and welcome to Amandla here on CQT 90.3 FM, your weekly African news and analysis show. So the Amandla team has decided to take what we would consider a well-deserved break. We're going to take the next few weeks off, but we've taken time to pull out what we consider some of the best of our programming over the last year or so. During these strange times of COVID, we nonetheless managed to pull together some interesting and relevant information. So Doug has kindly gone through our archives and pulled out pieces that we think bear rebroadcasting. So for the next 3 weeks, folks, we will be gone, and the faithful staff at CKUT will be making sure that these shows hit the airwaves every Wednesday, 7 p.m. Montreal time.
Je voulais faire un petit retour sur la situation qui prévaut en Algérie. J'ai pour ce faire trois excellents invités. Il y en a beaucoup d'autres, donc notamment des militantes qui sont mobilisées, qui auraient pu être là, mais pour toutes sortes de raisons. On se retrouve avec une délégation masculine. Je tiens sincèrement à m'excuser de ne pas avoir de présence féminine ici, d'autant plus qu'il y en a qui sont impliqués dans la communauté. Mais pour toutes sortes d'impondérables, j'ai pas pu en avoir, mais je vais pallier à ce manque d'aujourd'hui. Dans les prochaines émissions, je vous donne ma parole. Pour ce faire, donc, aujourd'hui, j'ai trois invités qui sont tout à fait sensibles, pareillement, aux enjeux féministes. Monsieur Brahim Rouabah, qui fait son doctorat à la CUNY University, la City University of New York, il enseigne au Brooklyn College. Donc, il est également, en plus de ses activités académiques, il est très impliqué au sein de différents comités qui se sont constitués à New York, aux États-Unis, de la diaspora algérienne, qui se mobilise donc pour faire un travail de sensibilisation, mais aussi de militantisme politique, en vue donc de faire abattre ce régime militaire qui est installé en Algérie. Aussi avec moi, Amin Brahimi, qui est déjà venu à cette émission dans le passé, qui est donc aujourd'hui postdoctorant à l'Université Columbia à New York, que vous avez déjà entendu. Il est également impliqué dans toutes sortes de comités qui se sont constitués à la fois à Montréal mais aussi à New York, parce qu'il est en faisant son doctorat là-bas, donc il est impliqué à New York, mais il est aussi impliqué ici. Et un troisième invité, Monsieur Tayeb Touati, donc qui est économiste de formation, mais qui est aussi citoyen algérien, très impliqué dans différents comités qui actifs donc ici à Montréal. La première question que je vous poserai, et répondra celui de vos trois qui se sentira le plus d'attaque, c'est quels sont les fondamentaux qu'il faudrait peut-être partager à des auditeurs et à des auditrices québécoises qui ne sont pas très au fait des subtilités de la politique algérienne. Quels sont les éléments fondamentaux à comprendre pour saisir le désir qui porte le peuple algérien aujourd'hui? Quelles sont les revendications de fond et quelles sont les raisons pour lesquelles le peuple algérien s'est soulevé par centaines de milliers depuis le 22 février dernier? Ça fait maintenant 9 mois que ça dure. C'est par centaines de milliers qu'ils sortent à tous les vendredis. Ça ne semble pas s'estomper. Pour quelqu'un qui ne comprend pas, quels sont les éléments, une minute chacun, qui puisse permettre donc à un public ou à des auditeurs qui ne sont pas familiers de la situation algérienne de comprendre. Donc c'est un défi que je vous lance, hein, expliquer en une minute des principes fondamentaux qui puissent permettre à des gens non avertis de comprendre la situation politique. Vous visez le pauvre Tayeb qui n'a pas l'habitude d'aller au micro. C'est pas nécessairement un cadeau qu'on te fait.
Merci Mouloud. Merci pour l'invitation. Donc, j'ai aussi le plaisir de partager le plateau avec les honorables invités. Par rapport à la question que tu viens de poser, je pense que la situation qui prévaut actuellement en Algérie, c'est suite à un ras-le-bol de la population. Et il est bien de noter que ce qui sévit en Algérie depuis l'indépendance jusqu'à présent, c'est un système autoritaire. C'est-à-dire, c'est un système autoritaire qui détient son autorité d'un pouvoir militaire qui est réellement le meneur de tout dans le pays, le détenteur du pouvoir réel, qui est doté d'une façade politique. Mais c'est-à-dire ce qui se passe présentement, c'est que ce pouvoir tel qu'il a l'habitude de fonctionner en sévissant et en utilisant de la répression ne peut plus répondre aux exigences de la population et notamment la plus grande frange qui est la jeunesse qui en a ras-le-bol de ce pouvoir. Donc la révolte qui a éclaté le 22 février s'inscrit dans le sens de se défaire de cette situation et de passer d'un système autoritaire vers un système démocratique, un système démocratique dans le plus large sens du terme.
Voilà.
Émile. Donc je profite de l'occasion aussi pour vous remercier pour cette invitation. Donc je reprendrai les propos du camarade Taïeb. Donc le peuple s'est soulevé principalement donc contre une junte militaire qui gouverne le pays depuis 1962. Et j'ajouterai qu'à travers cette révolte-là, il soulève beaucoup de questions de fond qui traversent la politique nationale et internationale. Donc des questions comme la souveraineté nationale sur les ressources naturelles, des questions comme le pluralisme politique, les questions sociales, les questions culturelles. À travers ce mouvement social, le peuple algérien est en train de poser les fondements de la future république qu'il veut d'abord démocratique, sociale, mais surtout qu'il veut libérer du pouvoir des militaires.
Voilà. Brahim, si tu es plus à l'aise pour répondre en anglais, tu peux faire les va-et-vient que tu veux.
Well, thank you for having me. I'm really thrilled to be here and among all of you. And what I want to, I think, something to always keep in mind is the slogans. What is the Algerian street telling us that it's their, you know, what their struggle is about? And one of the slogans is Algerians want their independence. The people want independence. This is 57 years after the supposed independence of the country from colonialism. Algerians still feel that they are under a colonial administration. So their struggle really is seen as a continuation of the anti-colonial struggle, an independence that had been confiscated, and it's a struggle for human emancipation. What it means to be human in the 21st century. As Amin was saying, these questions, the emancipation is seen in terms of social justice, is seen in terms of the most fundamental rights for Algerians, but also it's understood in terms of popular sovereignty and national sovereignty in a capitalist world order in which Algerians and Algeria itself has been assigned a particular role, a subaltern role in the international division of labor that Algerians are no longer prepared to accept.
Oui, Amin, est-ce que cette lecture que fait Brahim du mouvement comme étant un mouvement pour recouvrer la seconde indépendance qui ne se serait pas pleinement réalisée. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus?
Non, je trouve que c'est juste comme analyse. Ça veut dire que implicitement, à travers son refus du pouvoir de la junte militaire, le peuple algérien soulève ces questions-là. Ça veut dire comment bâtir, ça veut dire une démocratie dans un pays du Sud. Comment bâtir, comment pouvoir porter les promesses de l'indépendance algérienne, c'est-à-dire les promesses en termes sociaux. Les Algériens sont conscients qu'ils ont donné des sacrifices, que leurs grands-parents, leurs parents ont donné des sacrifices pour que l'Algérie devienne indépendante, et donc ils veulent avoir un État social qui puisse leur rendre ces sacrifices-là, comme leur rendre leur juste valeur. Donc, ce que je voulais dire, toutes ces questions-là sont soulevées indirectement par le mouvement.
C'est un sentiment que tu partages, Taïeb ?
Oui, certainement. Et c'est un sentiment que partage aussi la population, notamment la jeunesse dans la grande majorité. Et je tiens à souligner aussi, si on voit la composante humaine des personnes qui participent aux manifestations en Algérie, dans toutes les villes, et que ce soit ici, je tiens à noter aussi la présence de la jeunesse, toutes les franges de la société, notamment la femme. Donc la présence de la femme est très active dans ces mouvements de contestation. Et c'est quelque chose qui est à à souligner. Et lorsqu'on parle de la souveraineté comme telle, ce que vise ce mouvement comme tel, c'est une réappropriation de son pouvoir. C'est-à-dire lorsque on parle de pouvoir, c'est pour pouvoir de désigner et de défaire ses responsables. Et je crois que c'est la clé de voûte de toute démocratie qui se veut être respectueuse de son peuple.
Vous êtes ici dans le cadre d'une émission qui se veut panafricaine, dans une perspective panafricaniste. Or, précisément, le dialogue sur le plan culturel, vous, Brahim, vous travaillez beaucoup intellectuellement dans une optique décoloniale. Comment est-ce que, justement, ce qui se passe en Algérie peut faire écho, justement, à une lecture beaucoup plus pluraliste de l'héritage culturel pluriel de l'Algérie? Comment est-ce que les revendications que vous voyez, est-ce qu'il y a des éléments dans les formes de mobilisation qui donnent à croire que l'Algérie s'inscrirait peut-être dans une perspective en termes émancipateurs qui puisse s'inscrire aussi en phase avec son environnement régional, puisqu'aujourd'hui le pays il est traversé par ce qui se passe sur le plan régional, au Mali, au Niger? Comment faire en sorte que l'Algérie, qui est perçue généralement comme un État arabo-musulman, puisse aujourd'hui faire écho à toutes sortes de revendications qui ont cours dans l'espace régional, et comment les dialoguer avec les mouvements décoloniaux qui ont cours dans les pays du Sud? Est-ce que ces questionnements-là sont portés à travers soit des slogans, soit à travers des luttes qui ont une portée justement décoloniale?
I think the Algerian street and the Hirak itself is decolonial, not by theory. It's decolonial by practice.
Can we just say the Hirak? People are not going to know. That's the movement.
The Hirak. That's the movement. The popular movement in Algeria. So, I think one of the legacies of colonialism that Algerians are revolting against is the way in which the post-colonial states in Africa have been carved out on the map. These are not borders that were organically decided upon by the indigenous people of the continent. These are colonial scars in some ways that produce a certain subjectivity. So it's if you go to the east of Algeria or the west of Tunisia, you'll find families that are divided by a border. So cousins will need passports to actually go and have a play date or a sleepover with their cousins. So that's one of the things. Similarly, in the south with Mali and Niger, to the west with Morocco and so on. So there are these borders, these legacies of colonialism that are represented by physical borders, but they're also
by mental borders.
Mental borders.
Interesting.
That Algerians are only allowed to understand themselves in relation to the north, and that is the northern part of the Mediterranean or southern Europe in other terms. So reappropriating their Africanity is one way of decolonizing and challenging this the coloniality of the present. And the second thing that I want to say in relation to that question is that the role of the Algerian military oligarchic military oligarchic junta is the way the role it has played in the neo-colonial enterprises of France, for example, in the region, opening the airspace for France to attack Mali and to in the recolonization of Mali, the role it has played in allowing its relationship with AFRICOM and allowing the Americans to fly over drones and to.
We've been covered in Amandla this question of AFRICOM many times.
Right. Mm-hmm. So.
But I have a question then. So this is because it's a really interesting thing when you're talking about the Hirak or the movement reappropriating Algerians' Africanity. In concrete terms, how is that playing out in Algeria right now?
Well, I would, over the years that we've covered some of this, the months that we've covered this, I was very impressed how so much started in the soccer stadium with songs. And I felt that, and what I learned from this is that every week when they go out, it's singing that is the basis of it.
Oui,
well, my question remains. I guess I would like you to answer it, because I want to understand in concrete terms how this is playing itself out on the ground.
I think it's playing itself out in terms of an example would be the brandishing of the Sudanese flag, showing, gesturing to the Algerian solidarity, not only the brandishing of the flag, but also the chants. When Sudanese protesters were being shot at, Algerians on the streets were chanting in support of Sudanese protesters. But also the very critique of the role that the Algerian sort of military regime has played in facilitating neo-colonial and imperial designs in the region and in the continent, having that critique itself. Is a way of saying that we see ourselves, we are concerned about what happens in Mali. Yeah. We are concerned in Libya. We are concerned what happens in Niger. And that affects us just as much as Malians or Nigerians or Libyans. So those are the, some of the examples in that sort of demonstrate how concretely that plays out.
Alors justement, pour Amine et Taïeb, si vous voulez rebondir sur cette question, parce que toute la perspective émancipatrice, démocratique, le progrès social qui est porté par certaines catégories politiques en Algérie, c'est souvent porté dans un discours eurocentriste. L'Abrahim nous donne des clés de compréhension pour penser quelque chose qui serait comme un horizon de résistance et d'émancipation, mais qui se dit dans un autre langage. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus?
Oui, je suis d'accord avec sa perspective. D'abord, il faut rappeler qu'en Algérie, il y a tout un imaginaire panafricain qui est hérité des luttes d'indépendance et de la période décoloniale qui a suivi un peu 1962. Ça veut dire qu'on a eu le festival panafricain, on a eu des ponts de solidarité avec les Black Panthers. À un moment donné, Alger était la Mecque des révolutionnaires. Et donc cet imaginaire-là est encore présent chez la population. Et comme le disait très bien Brahim, par exemple, quand on laisse un corridor aérien à l'aviation française pour bombarder le Mali, les Algériens trouvent que c'est une atteinte à la position qu'avait l'Algérie par le passé. Donc il y a cet imaginaire-là. Ça c'est un. Deux, il y a la question de la masérité. La question de la masérité maintenant, comment elle est traitée en Algérie, c'est que l'identité amazigh qui a été mobilisée par le pouvoir pour essayer de diviser le peuple est prise comme une identité nord-africaine, complètement. Ça veut dire qu'on dépasse les frontières coloniales. Autant on dit le drapeau amazigh, pour lequel beaucoup de personnes ont été emprisonnées, est perçu maintenant par la population comme un drapeau qui représente l'ensemble de l'Afrique du Nord. Et donc on est dans une identité qui n'est plus qui dépasse les frontières coloniales.
Okay. Continue, tu as tout le temps qu'il faut.
Okay. Et donc il y a cette question-là. Il y a aussi la question des populations subalternes en Algérie. Ça veut dire que c'est sûr que la vision eurocentriste de l'Algérie fait qu'il y a des populations comme marginalistes, comme les populations du Sud, qui grâce à ce mouvement-là reprennent l'avant-scène politique. Et ça c'est aussi une réconciliation avec la dimension africaine de l'Algérie et un rejet des divisions coloniale qui prévalait chez beaucoup d'élites algériennes et du rapport qu'ils avaient par exemple avec le Sud comme étant une externalité de l'Algérie. Souvent quand quelqu'un allait travailler dans le Sud de l'Algérie, on disait comme s'il changeait de pays. Mais maintenant on voit un peu une solidarité qui dépasse un peu ses frontières coloniales.
Est-ce qu'on est riche qu'à dire que le rapport avec le Sud est un peu comme le rapport avec les autochtones ici?
Non, parce que je ne pense pas que l'État algérien a commis un génocide culturel sur les populations du Sud.
Je parle au niveau des représentations.
Oui, au niveau des représentations, il y a un héritage colonial qui est fort. Le Sud, on prend du Sud les ressources. Et si on envoie quelqu'un du Nord travailler dans le Sud, c'est comme si on l'envoyait, je ne sais pas, au goulag. Donc il y a toute cette perspective-là. Mais le mouvement dépasse tous ces clivages-là.
quelque chose à dire là-dessus?
Par rapport avec le mot sur lequel Amine a terminé, clivage, ce que je veux dire, quant à moi, que le peuple, avec cette dynamique, a dépassé tous les clivages, c'est-à-dire tous les clivages, que ce soit politiques ou régionales, ont été dépassés par la population et les manifestants. Et dans le sens où Amine l'a dit tantôt, par rapport à l'Afrique ou bien à la dimension africaine, moi je pense, quant à ma part, que l'avenir de l'Algérie est forcément africain, vu sa position, vu son histoire aussi. C'est-à-dire, si on fait une brève visite par le passé dans les luttes pour la décolonisation, il y a tout un capital de sympathie que l'Algérie, à travers des actions qui ont été menées après son indépendance auprès d'autres peuples africains, notamment sur tous les plans, que ce soit logistique ou bien apport diplomatique international pour leur libération. Quoique les relations par la suite n'étaient pas, c'est-à-dire avec la même dynamique vu la succession des pouvoirs, que ce soit en Algérie ou ailleurs, mais ça reste, ce capital symbolique de sympathie existe toujours. Donc il y a un investissement qu'on peut faire dans ce sens pour redynamiser les relations par rapport à ça.
Je ne veux pas polémiquer, mais je comprends cet héritage symbolique, mais je vais faire l'avocat du diable quand même. Comment expliquer dans ce cas-là l'Algérie qui a hérité de cet héritage panafricain issu du mouvement des non-alignés? Comment expliquer alors le traitement, par exemple, qui est réservé aux migrants subsahariens qui sont pris en tenaille dans les politiques d'externalisation, d'immigration, des politiques européennes? Je sais que c'est pas la population qui les marginalise, qui les cantonne dans des conditions déplorables qui sont les leurs, c'est le régime, mais est-ce que ce que vous observez comme étant des prédispositions de la société à dépasser comment est traitée cette question, par exemple?
Oui, quant à ma part, ce que je peux dire par rapport à ça, ce traitement qui a été réservé malheureusement aux réfugiés qui proviennent des pays d'Afrique, qui traversent l'Algérie, ça, quant à ma part, je l'endosse entièrement aux autorités algériennes en place, qui ont réservé à ce phénomène une réponse policière et sécuritaire sans s'y pencher sur le phénomène comme tel, pour réserver le traitement adéquat, c'est-à-dire en tant que phénomène humain, c'est-à-dire qui a toutes sortes de soubassements, que ce soit politique, économique et même climatique de nos jours. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent influer sur des personnes, des humains qui habitent à l'endroit pour y quitter et se déplacer ailleurs. Et quant à moi, je pense que la population, quant à moi, je peux la dédouaner dans tout ça. C'est endossable à son entièreté au pouvoir en place.
I'm going to dive in. We're halfway through the show. You're listening to Amanda here on CQT 90.3 FM. We're going to take a little musical break. When we come back, we're going to reintroduce our panel, and then we will continue on.
Thank you. Vous êtes toujours à l'antenne d'Amandla sur CKUT 90.3 FM, CKUT.ca Worldwide. Alors, Gwen, quel est le titre de la dernière pièce musicale? Je fais le mauvais garçon. Je
Mouloud, t'es vraiment méchant.
Gwen, oublie ça.
C'est Amadou et Mariam
La fête au village, non. Alors, on va continuer la discussion, puis tu pourras le dire après. Je m'excuse, Gwen. D'habitude, je fais pas comme ça. Je m'excuse de te prendre au dépourvu. Alors, je rappelle à ceux qui se sont joints à nous au cours de l'émission, qui n'étaient pas là au début, que nous sommes en train de discuter de la situation sociopolitique en Algérie avec Brahim Rouabah, Amin Brahimi, Tayeb Touati. Voilà. On vient de parler de la question des migrants subsahariens qui existent en Algérie, mais peut-être passer à un autre sujet. Donc aujourd'hui, l'échéance qui se profile en Algérie, les militaires ils veulent absolument tenir des élections présidentielles le 12 décembre prochain. Il y a une mobilisation qui existe en Algérie, donc si vous voulez, parce que le peuple porte d'autres revendications. L'horizon pour le peuple, ce n'est pas ces présidentielles. Pourquoi les militaires tiennent-ils à ces élections présidentielles et qu'est-ce qui se fait pour pouvoir contrer finalement ça?
Well, their plan is to have these elections for the military leadership is to give themselves a new civilian facade, so they can. Their problem right now is that they are for the first time since independence they are face to face with the people, and they have nowhere to hide. The people know where the locus of power is, and all the sort of the maneuvers that they have managed throughout the post-colonial history of dotting themselves with.
Constitutions,
right, and civilian facades have fallen. So they want to absolutely go to elections and push it through to hide again, to take the background again. But Algerians are making there are two strategies for the movement. The first strategy is to make sure that despite this media blackout, global media blackout on the movement, they want to make sure that it is known by everyone that these elections are a masquerade, that they have no legitimacy. The majority of the Algerian population electorate is not going to take part in them, and also that they are not concerned by these elections. Mm-hmm. On they are scheduled for December 12th. Algerians will be on the street on December 13th. So even if the military leadership wants to justify potential repression by saying, look, we're back to a constitutional order, go home, there is nothing to see, Algerians will be back on the street. They're not going to accept that, and whatever president they'll have will not have any shred of legitimacy in the eyes of Algerian citizens.
Je vais reprendre la position qu'a expliqué Brahim et Tayeb. Ça veut dire que à l'échelle internationale, l'Algérie a un rôle subalterne et donc elle est obligée d'avoir une façade politique pour au moins que ses alliés étrangers puissent continuer à exploiter les ressources algériennes. Donc cette présidentielle est importante parce qu'elle permettra, comme l'a dit Brahim, aux militaires de se cacher derrière une façade politique et de continuer à faire leur commerce à l'échelle internationale. Et en même temps, ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a une montée progressive en Algérie de la répression. Et après ces élections-là, ce qui présage qu'après les élections, il y aurait peut-être une répression de masse contre le mouvement algérien. Donc il y a ces deux facteurs-là, à la fois la nécessité de légitimer politiquement la junte militaire et cette légitimation peut-être va suivre d'une répression de masse contre le mouvement populaire.
Et ici en diaspora, disons en contexte migratoire, il se fait beaucoup de choses. Il y a toutes sortes de comités qui se sont constitués, des comités sur les droits humains, des comités qui revendiquent une assemblée constituante, d'autres qui vont faire des actions devant le consulat d'Algérie pour que les élections puissent pas se tenir. Pouvez-vous dire un peu quelques mots sur Tayeb peut-être, sur le rôle justement qui se joue ici au sein de la communauté algérienne et comment est-ce qu'elle se mobilise à l'échelle locale montréalaise d'abord?
Donc par rapport à la communauté algérienne ici à Montréal et environ, la communauté est très active, elle est très dynamique. Donc elle est très impliquée et solidaire par rapport à ce qui se passe en Algérie. Et à cet effet, il y a différentes actions qui se tiennent chaque semaine, et cela depuis le 22 février 2019, en guise de solidarité, de soutien par rapport à ce qui se passe en Algérie. Donc il y a des manifestations qui tiennent lieu à Place du Canada chaque dimanche de 11h à 13h. C'est des actions, c'est une manifestation, c'est un rassemblement de la communauté algérienne. Il y a différentes activités, notamment des speaker corner, d'un coin pour s'exprimer pour toute personne qui veut développer son opinion. Il y a aussi même l'art qui est à contribution. Il y a des œuvres d'art qui sont réalisées à l'occasion. Il y a aussi des chants. Il y a une action qui se fait le samedi qui se déroule devant le consulat d'Algérie de 1h à 15h, je pense. C'est aussi dans le même esprit. Et donc il y a un forum qui se tient une semaine, un dimanche sur deux. Le forum ressemble à des bénévoles, donc des Algériens, des Algériennes établies à Montréal et environ, qui discutent autour des problématiques du pays d'origine, à savoir l'Algérie. Et il y a des groupes de réflexion, notamment, qui réfléchissent sur différentes thématiques, notamment le soutien, les actions de soutien aux détenus d'opinion, action de réflexion sur l'Assemblée constituante, traque des fonds mal acquis ici au Canada et à l'étranger.
Juste revenir sur, comme a expliqué très bien Taïeb, donc ce forum est un espace de discussion citoyen. Donc à la fois on discute mais on s'organise aussi. Il est constitué de plusieurs comités de travail, comme il l'a bien expliqué, sur différentes thématiques. Et de ces comités de travail sont sorties beaucoup d'initiatives. Bon, il y a eu d'abord un groupe de réflexion qui a fait beaucoup de conférences sur le processus constituant. Il y a aussi un groupe qui essaie d'organiser le blocage des élections à Montréal. Mais il y a aussi une dernière activité qui me tient à cœur, c'est une pétition que veulent déposer les citoyens canadiens d'origine algérienne à la Chambre des communes et qui a pour but de dénoncer les exactions que subissent les manifestants en Algérie et d'appeler à la libération de tous les prisonniers d'opinion et les prisonniers politiques. Donc peut-être que si l'équipe d'Amandla me le permettrait, je pourrais envoyer le lien pour le mettre sur le site.
D'accord.
Excellent, oui.
Voilà, merci.
Doug, est-ce que tu as une question, toi?
Go ahead. As we see here in Montreal, the Algerians are very motivated by what's happening in Algeria. But I'm totally fascinated by how week after week, and we're not talking 1,000, we're talking not 100,000, but maybe 1 million people or more, and not just in one city, but across the whole country, are coming out. What is underneath this? What's making this happen? Concretely, how do people come and do this every week?
Go ahead, Brahim. Go ahead.
I think it's not really there is something unique about the Algerian experience, but I don't want it to sound that it's out of this world, because we are seeing mass mobilizations across the globe. So I think the global system under which we all live is creaking at the seams. We see it from Haiti to Chile, from Algeria to Cote d'Ivoire, from Sudan to Lebanon and beyond. But in Algeria, it has been the process, the mobilization has sort of learned its lessons from its own history, but also from recent histories in the region and mobilizations in the region. And Algerians realize that they are in front of an existential crisis. It's for Algeria to either be or not be at this point. The loss of sovereignty that the country has seen, the tyranny of an oligarchic minority, a comprador oligarchic minority towards these people and the Algerian people, and this sort of takes us back can be linked back to questions about the south of Algeria and about the immigration question, because this elite, this oligarchic elite, has internalized its colonial subjugation. It has internalized its subaltern positioning, that it approaches its own people in the South in an extractivist way. It sees them as incidental to its interests. So the south of Algeria is nothing but oil rigs that you extract from and you sell, without any regard for the environment, for the health of the populations of the south, or any other consideration. The same thing goes to the role of doing the dirty work for Europeans, as far as stopping sub-Saharan immigration to Europe. You know, why is Algerians ask themselves, if you have opened your airspace for France to bombard Mali, and now you have Malian refugees who are fleeing a war zone, and you're using our taxpayers' money to prevent these people from seeking safe refuge? It's just a Kafkaesque situation which is seen by Algerians as unacceptable.
You have any questions?
It's almost a microcosm of the entire world in a way, that Kafkaesque. Anyway, oh, I'm so torn between two questions, but okay, I'm going to dive into this one. So in preparing to listen to this conversation and participate in it, I was listening to an interview with Middle East Eye journalist Akram Karieff today, and he said that one of the great strengths of l'Iraq is that it's a protest without leadership. And he said, so no one is co-optable, and it gives the movement resilience. And I want you to respond to that interpretation of l'Iraq.
Bon, sur la question du leadership, je pense que c'est le résultat d'un processus historique. Ça veut dire que bon, l'Algérie est passée à la suite du coup d'État de 92 par une guerre contre les civils qui a neutralisé beaucoup des élites politiques, soit en les cooptant à la cause des généraux, soit en les liquidant physiquement. Donc on est sorti de cette décennie noire avec une élite politique qui a perdu sa légitimité ou qui a été forcée à l'exil. Donc ça, c'est un premier fait. Et donc, les années qui ont suivi la décennie noire sont des années de sont le règne de Bouteflika, qui a instauré...
99 à 2019.
Oui, 99 à 2019, qui a instauré un système où la corruption est devenue quelque chose d'ordinaire. Et donc, il a coopté, mais il a discrédité la plupart des élites politiques. Alors, le peuple, maintenant, il sort, et c'est vrai qu'il n'a plus confiance dans les structures politiques traditionnelles, que ce soit les partis, que ce soit les syndicats, et il montre encore plus de maturité politique que son élite. Ça veut dire que dans la rue, dans le mouvement du Hirak, on voit des gens de tendances politiques différentes, qui ont des rapports par rapport aux religieux qui sont très différents, qui ont des visions de société très différentes, mais qui marchent ensemble, alors que l'élite politique, malheureusement, une partie de l'élite politique, en tout cas celle qu'on nous présente souvent comme comme l'opposition légitime ici en Occident, est déchirée encore avec les mêmes débats qu'il y a 20 ans. Donc il y a cette question-là, et je pense que bon, ça montre à la fois à la fois que le peuple algérien est conscient de l'urgence de faire quelque chose pour l'avenir du pays, mais qu'il y a aussi un processus d'accumulation historique où il a réussi à prendre de la maturité à la suite de plusieurs révoltes et de plusieurs expériences historiques.
Merci. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Taïb, par rapport à ça?
Oui, c'est-à-dire, dans ce sens, la particularité du Hirak, donc du mouvement en Algérie, c'est que jusqu'à présent, il ne s'est pas doté de leader structurellement désigné. Ceci est le résultat d'une expérience sociale et politique en Algérie, parce que le peuple algérien, moi je le dis souvent, il y a un seul expert, c'est le peuple. Le peuple est devenu expert des pratiques de son pouvoir, parce que le pouvoir autoritaire qui a régné en Algérie, il avait l'habitude de sévir avec deux leviers généralement, qui est la violence et la rente. C'est-à-dire, c'est un pouvoir qui a à sa possession les instruments de la violence
et la rente notamment qui provient des ressources pétrolières. Donc par le passé, il a fait un travail pour soit mater l'opposition, emprisonner, voire assassiner et forcer les opposants à l'exil, et aussi à travers la rente corrompre l'élite. C'est-à-dire corrompre une élite, ce qui fait que, actuellement, pour les Algériens, surtout les jeunes qui manifestent, le lien de confiance est rompu. Ce qui fait que ils aspirent à de nouvelles structures, à de nouveaux comportements, à de nouveaux mœurs politiques.
Pause musicale, peut-être. Tu voudrais ajouter quelque chose, Brahim?
Sure. I think there is, with the first wave of the so-called Arab Spring, there is all this talk about leaderless and horizontal movements, and I think it's what we're seeing here is less leaderless movements, but leaderful. It's full of leaders. Everyone is a leader in these movements, and you know there is again the experiences and the learning, the collective intelligence of the movement with past experiences of repression and co-optation, liquidation, exile, and so on. But it's important to point out that it's actually the Algerian military regime that wants the Hirak to appoint leaders, mm-hmm. because it's easier for them to do that. While the movement is saying there is really no need to have leaders at this stage. When you're ready, when you demonstrate political will to find a genuine solution, when you're ready to hand over the keys, we will send someone to pick them up. But until then, we're not giving you any names.
You're listening to Amanda here on CQT 90.3 FM. We'll take a little musical break, and we'll be right back.
Welcome back to Amandla at CKUT 90.3 here in Montreal. We have with us a distinguished panel of Algerians who are giving us a lot of wonderful background about what's going on there, historical, current, the whole outline, and it's really, really amazing. And one of the things that we don't hear much talk about in this revolution, and we just covered the whole situation of the leaderless part of it, but is the fact that so many independent efforts throughout Africa and other parts of the world have always been subverted by exterior forces. Now, Algeria itself is very, its industry, its extractions is all tied to Western interests. Where are they in all of this? And we understand their connection to the regime, but surely there's work on, they're working on the edges of the movement as well to try and find holes and make inroads.
Alors, la traduction française de la question, c'est tout simplement quels peuvent être les facteurs externes sur le plan géopolitique, sur le plan économique, forces externes finalement qui ont des intérêts énormes avec le régime actuel et qui peuvent finalement contrarier ou infléchir les efforts du peuple algérien. Et comment répondre à cette question en étant vigilant sur ces enjeux?
Non, il est clair que l'Algérie représente beaucoup d'intérêts, a beaucoup d'intérêts pour les puissances étrangères. C'est un des, d'abord, en point de vue géographique, sa position elle est centrale en Afrique, mais elle est aussi très proche de l'Europe. Et donc, il y a beaucoup de puissances occidentales qui ne voudraient pas voir l'Algérie être déstabilisée au prix d'avoir une dictature. Et le deuxième point, c'est la question des ressources. Ça veut dire que l'Algérie est un producteur de pétrole et de gaz. Ça veut dire qu'il y a des oléoducs qui vont directement de l'Algérie à l'Europe. Et par là, il est important pour les puissances occidentales que cette production-là soit pérennisée. Et donc, tous ces facteurs-là font que, je pense, les puissances occidentales restent méfiantes par rapport à un mouvement, surtout un mouvement sans leader. Et donc, certains, indirectement, on peut remarquer, un, par le silence médiatique, deux, par les prises de position des différents gouvernements, qu'il y a une volonté d'avoir une stabilité politique, quitte à permettre aux militaires d'organiser leurs élections et d'avoir une façade politique. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut un peu déchiffrer la place de l'Algérie dans le contexte géopolitique, selon moi. Mais bon, je vais laisser mes camarades peut-être compléter.
Tayyip.
Oui, certainement. C'est-à-dire l'Algérie ne vit pas en autarcie, donc il y a tout un monde et des acteurs sur le plan international qui ont un intérêt en Algérie. Et il est sûr que ce qui se passe actuellement avec les manifestations, ça ne va pas arranger les intérêts des puissances qui ont ce genre d'intérêt en Algérie, pour la simple raison que le mouvement populaire en Algérie, il aspire à une pleine souveraineté sur ses ressources naturelles, à une pleine souveraineté sur son secteur économique, à une pleine souveraineté sur son territoire, à une pleine souveraineté dans sa décision politique. Ce qui fait que, on récap, il aspire à être un acteur pesant. Donc, certainement, ça n'arrange pas les calculs de certains, mais traditionnellement, les pays qui ont un intérêt dans les différents domaines en Algérie, pour le secteur pétrolier, il y a les États-Unis d'Amérique, pour tout le secteur commercial, la France notamment, le secteur de l'équipement militaire, la Russie, et le secteur de l'infrastructure routière, entre autres, c'est la Chine qui est un rôle discret, en quelque sorte, mais elle existe. Donc, tous ces acteurs-là, actuellement, ils ont un rôle à jouer. Certainement, c'est des choses qui ne sont pas visibles aux yeux de nous, en tant que simples citoyens. C'est quelque chose qu'on ne peut pas mesurer et quantifier, contrairement à la pression que fait le mouvement populaire à travers les manifestations de chaque semaine que la population fait. C'est des choses qu'on arrive à voir. C'est quelque chose qui fait pression, qu'on peut quantifier. Et l'autre rôle de ces puissances qui existe et qui est pesant dans la balance, mais on ne peut pas quantifier et voir, malheureusement.
Ibrahim?
Yeah, I just want to say that the status quo forces in the world are interested in... They have a three-pronged strategy. Their first interest is to... They don't want a sovereign Algeria. They don't want a strong Algeria. They want an Algeria that stays in its corner and does what it's told, as it has been for such a long time. So because of the politics of the movement, because of the potential that not only it will be an effective actor in the region, but because of the fear that it would set an example for others to follow, this is where we enter in the 10th month. There is not one single country that has made an official statement on the situation in Algeria or a condemnation of the repression. Not a single country has made it. So, plus we had 2 weeks ago. I think 2 weeks ago there was a former U.S. ambassador to Algeria who tweeted in a tweet said, "I am baffled by the media blackout on what's happening in Algeria." This is we're talking about the American establishment being baffled about sort of the lack of reporting on this movement. So but since we're here, we might maybe point out to, for example, the federal government here. The Canada has in fact sent the last shipment of arms to Algeria in late June, beginning of July. So if you see if there is ammunition that is being used, if there is tear gas that being used, it was sold by the Canadian government to this military regime.
Perfect segue to the end because we're out of time. It brings us back to Canada. S'il vous plaît, pour les gens qui veulent s'impliquer ici au Canada, vous avez une minute pour expliquer comment le faire et après ça, on n'a plus de temps.
Alors, je voudrais d'abord rappeler au moins un texte de Brahim qui peut être consulté sur Internet. Il y a un site Internet que je vous recommande. Ça s'appelle Africa is a Country. Brahim a publié un texte le 1er novembre dernier qui a pour titre The People's Movement in Algeria, 8 months on. Donc, c'est un bilan des 8 mois de manifestation. Alors, demain, on organise une conférence Perspective comparée Algérie-Chili. Donc, Brahim Rouabah, qui est ici, va parler aux côtés de Ricardo Penafiel. C'est au Centre des travailleurs immigrants, qui est situé, Immigrant Worker Center, qui est situé au 4755 Avenue Van Horn, de 19h à 21h30. Sinon, pour ce qui est de ce qui peut se faire ici à Montréal, en 20 secondes, Amine.
Bon, d'abord, il y a deux manifs. Il y a la manif du samedi, qui est de 13h à 15h. Il y a la manif de dimanche qui est de 11h à 13h. Et à chaque 2 semaines, il y a le forum des citoyens algériens à Montréal. Donc, il y a un bon lieu pour les gens qui veulent s'impliquer. Il y a une page Facebook qui s'appelle Forum citoyen d'Algériens algériennes à Montréal. Donc, pour consulter les activités du forum.
So, just very quickly to recap in English, tomorrow night at 7 o'clock at the Immigrant Workers Center, one of our guests tonight.
4755 Van Horn.
That's right. And Brahim, who's been with us tonight, will be there speaking tomorrow with two other guests,
I believe. Another guy who's from Chile.
Okay.
His name is Ricardo Penafiel. He's a political scientist.
Right. So, looking at the Chilean situation, looking at the Algerian situation, tomorrow night, 7 o'clock, Immigrant Workers Center.
Are you going to be there, Gwen?
I cannot, but I would love to be there, but I expect
our listeners
to be there.
Every Saturday from 1 till 3, and every Sunday from 11 till 3. Saturday is on the corner of St. Urbain and Sherbrooke, and Sunday's down on Dominion Square. You will find them there. They are willing to talk. They want to talk. They're happy to tell everybody what's going on. Thank you, all of you, for your wonderful participation here tonight. What a great show.
Wonderful. Merci.
Merci beaucoup, Brahim Rouabah. Merci, Amine Brahimi. Merci, Tayeb Touati. Merci, Gwen Schulman, à la technique. Merci à mon camarade et ami, Doug Miller. Mais vous êtes tous mes camarades et amis. Voilà, restez à l'antenne donc de CKUT 90.3 FM. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu, Gwen.
Est-ce que c'est Jazz toujours Euphorium.
L'émission Jazz Euphorium va suivre dans un instant.
Thanks for joining us again on the Mandla this week. We will be back next week, and please stay tuned now for Jazz Euphorium. Africa unite, Batsilelile.
Bonjour, c'est Mélissa et Catherine, and we're walking our dogs Henri and Marlo, and you're listening to Jazz Euphorium on CKUT 90.3 FM.
Yeah, all right, that's right, okay.